de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. La plus grosse tortue du monde apparaît sur la plage de Paloh, Kalimantan de l'Ouest. L'Indonésie dit que Vanuatu ferme les yeux sur les groupes séparatistes criminels. Les exportations de meubles augmentent. Le ministère de l'Industrie optimise la restructuration des machines IKM. Abbas donne un an à Israël pour quitter la Palestine. L'Inde critique le Pakistan et la Chine profitant des talibans. Le Soudan expulse les troupes éthiopiennes de la frontière. L'ASEAN et la Chine discutent de la protection des informations. Bon, chers auditeurs, voici les journaux incomplets. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche a révélé un phénomène rare, à savoir l'émergence de tortues luttes, connues comme les plus grandes tortues du monde, sur la côte du district de Paloh, dans la région de Sambas, Kalimantan de l'Ouest. C'est ce qu'a déclaré le directeur général par intérim de la gestion de l'espace marin, Pamuji Lestari, dans sa déclaration à Jakarta dimanche dernier. Des tortulutes ou Dermochilis coriacea avec une longueur d'arc de carapace de 174 cm, une largeur de carapace de 114 cm et une largeur de piste de 194 cm ont été trouvées en train de creuser un trou pour pondre des œufs sur la côte de la rivière Blajan par des agents recenseurs du Centre de gestion des ressources côtières et marines de Pontianak et des étudiants en travail sur le terrain du programme d'études des sciences marines de l'Université de Tanjung Pura qui surveille et collecte actuellement des données sur les tortues. Pamuji Lestari a déclaré: tous les types de tortues ont été entièrement protégés par le gouvernement par le biais du règlement gouvernemental numéro 7 de 1999 concernant la préservation des plantes et des animaux. La troisième secrétaire du représentant permanent de la République d'Indonésie à New York, Cindy Nurfitri, alors qu'elle représentait l'Indonésie à l'Assemblée générale des Nations Unies, a livré sa réponse aux allégations formulées par Vanuatu concernant la question des droits de l'homme en Papouasie. Dans un enregistrement de l'Assemblée générale des Nations Unies accessible dimanche sur la chaîne YouTube du ministère indonésien des Affaires étrangères, Cindy a déclaré que le Vanuatu continue d'interférer avec la souveraineté d'autres pays et continue d'intensifier les accusations agressives avec des mauvaises intentions et des motifs politiques contre l'Indonésie. laisser d'impressionner le monde avec ce qu'il dit, ce qu'on appelle des préoccupations concernant les questions des droits de l'homme. En fait, leur version des droits de l'homme ne met pas en évidence les actes de terreur inhumains et odieux perpétrés par des groupes séparatistes criminels armés en Papouasie. Il a déclaré que Vanuatu fermait délibérément les yeux sur ce que les groupes séparatistes criminels armés avaient fait, notamment le meurtre d'agents de santé, d'ouvriers de bâtiments et de personnel de sécurité. Ce sont les victimes des personnes qui consacrent réellement leur vie au peuple de Papouasie. Le ministère indonésien de l'industrie optimise la restructuration des machines de petite et moyenne industrielle, ou IKM, alors que les exportations de meubles augmentent de 30,8% sur la période janvier-août 2021 par rapport à la même période 2020. Cela indique que les meubles indonésiens, les produits sont déjà compétitifs sur la scène mondiale. C'est ce qu'a déclaré le directeur général exécutif permanent des petites, moyennes et industries diverses, ou abrégé en IKMA, du ministère indonésien de l'industrie, Reni Anita, dans un communiqué à Jakarta dimanche dernier. Au milieu d'une forte pression due à l'impact de la pandémie de COVID-19, l'industrie nationale du meuble a pu montrer une brillante performance. Cela se reflète dans la valeur des exportations de l'industrie du meuble en 2020, s'élevant à 2,19 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 12,2% par rapport à 2019. Reni a mentionné plusieurs destinations principales pour les exportations des produits d'ameublement en provenance d'Indonésie, notamment les États-Unis, le Japon, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre. Avant de soutenir le secteur de petites et moyennes entreprises de l'ameublement pour augmenter la productivité et la qualité, stimulant ainsi l'expansion du marché d'exportation, le ministère de l'Industrie a un programme de restructuration de machines et équipements de production. Cet effort s'inscrit dans la volonté d'encourager la petite et moyenne entreprise à utiliser les dernières technologies. Le président palestinien Mahmoud Abbas a donné un an à Israël pour se retirer des territoires palestiniens occupés. Abbas a menacé de retirer la reconnaissance d'Israël s'il ne faisait pas. Dans une allocution virtuelle à l'Assemblée générale des Nations unies, vendredi, Abbas a déclaré qu'il ne reconnaîtrait pas Israël s'il refusait de se retirer du territoire palestinien. Selon lui, la Palestine veut un futur État libéré de l'occupation, selon Abbas rapporté par Al Jazeera samedi dernier. Abbas a également demandé au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, de convoquer une conférence internationale de la paix et a exprimé sa volonté de travailler tout au long de l'année pour finaliser le statut de l'État d'Israël et de la Palestine conformément aux résolutions de l'Organisation des Nations unies. Abbas accuse Israël d'apartheid et de nettoyage ethnique. Abbas utilise un terme rarement utilisé pour les négociations en cours sur une solution à deux États. La Palestine est prête à saisir la Cour internationale de justice sur la question de la légalité de l'occupation de la terre de l'État palestinien. Le premier ministre indien Narendra Modi a critiqué le Pakistan et la Chine dans son discours de samedi. Il a mis en garde contre les pays qui profitent du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. S'exprimant lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Modi a exhorté les puissances mondiales à aider les femmes, les enfants et les minorités afghanes. Il a déclaré qu'il était important que l'Afghanistan ne soit plus envahi par la terreur, comme c'était le cas lorsque les talibans sont arrivés au pouvoir entre 1996 et 2001. Cela a été dit par Modi, rapporté par The National News dimanche dernier. En outre, il a également souligné la protection des océans contre l'expansion en référence à la rivalité entre l'Inde et la Chine dans l'océan Indien. Modi a fait part de ses inquiétudes au sujet du Pakistan lors de discussions avec le président américain Joe Biden et lors de sommets avec les dirigeants australiens et japonais. Selon des responsables indiens, d'autres dirigeants sont d'accord avec les préoccupations de Modi. L'armée soudanaise a déclaré dimanche avoir exposé les troupes éthiopiennes qui étaient entrées dans la région en essayant de s'infiltrer à la frontière entre les deux pays. Les troupes éthiopiennes ont été contraintes de se retirer de la région d'Oum Barakit. L'incident s'est produit samedi dernier. C'est ce qu'a déclaré le chef militaire soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, aux journalistes. Al-Burhan a déclaré que cette décision montrait que l'armée soudanaise s'acquittait de son devoir de protéger le pays après la tentative de coup d'État à Khartoum la semaine dernière. Pendant ce temps, un porte-parole de l'armée éthiopienne, le colonel Gednat Adan, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les tensions le long de la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie se sont intensifiées depuis que le conflit a éclaté dans le Tigré, une région du nord de l'Éthiopie l'année dernière. Le conflit a forcé des dizaines de milliards de personnes à fuir vers le sud du Soudan. Les tensions sont concentrées dans les terres agricoles fertiles d'Al-Fashqa où la frontière est contestée. Le ministre des Communications et du Multimédia de Malaisie, qui est également président de la réunion des ministres du numérique de l'ASEAN, Anwar Musa a tenu une réunion virtuelle dimanche dernier. Anwar a discuté du dialogue sur le port des informations Chine et ASEAN. Le dialogue s'est tenu à Wuzhen, dans la province de Zhejiang, en Chine. Anwar Musa a parlé au nom de la Malaisie, qui est actuellement président de la réunion des ministres du numérique de l'ASEAN et la réunion des autres fonctionnaires du numérique de l'ASEAN. Anwar Musa a souligné l'importance de l'économie numérique pour la Malaisie et la nécessité d'être conscient des menaces de cybersécurité. La crise de la COVID-19 a modifié la numérisation des services de santé vers les achats et les paiements en ligne. Il a déclaré que l'économie numérique est devenue un élément important de la vie quotidienne et a le potentiel d'être un moteur clé dans le développement de nouvelles industries et de nouveaux domaines de croissance dans l'ASEAN. Le dialogue sur le port des informations Chine-ASEAN fait partie de la conférence mondiale d'Internet. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « Intégration d'applications Peduli Lindungi sur toutes les plateformes ». Vous êtes avec Maudry. S'agit-il dans un effort pour empêcher la propagation du coronavirus et suivre la mobilité des personnes pendant la pandémie, le gouvernement indonésien exige la vaccination COVID-19 pour la majorité des citoyens. Pour cette raison, lors de la mise en œuvre des restrictions d'activités communautaires, le gouvernement a mis en œuvre l'utilisation de l'application Peduli Lindungi sur les téléphones portables. À l'ère numérique d'aujourd'hui, cette méthode est considéré comme pratique, comme preuve que quelqu'un a été vacciné contre la COVID-19. PeduLindungi est une application développée pour aider les agences gouvernementales concernées à suivre pour arrêter la propagation de la maladie à coronavirus. Malheureusement, de nombreux citoyens ont des difficultés à télécharger l'application PeduLindungi pour diverses raisons. Entre autres, la mémoire de l'appareil est déjà pleine ou vous n'avez pas de smartphone. Pas même quelques-uns admettent également avoir du mal à télécharger l'application PeduLindungi parce qu'ils ne savent pas comment. Pour résoudre les problèmes de la communauté, le gouvernement indonésien, en l'occurrence le ministère de la Santé, améliore ensuite les mécanismes liés à la réglementation entourant l'utilisation de l'application PeduLindungi. Surtout lorsque vous voyagez en transport en commun. Un communiqué de presse du ministère de la Santé a déclaré qu'à partir d'octobre 2021, un certain nombre d'options étaient proposées pour indiquer le statut vaccinal d'une personne. Une personne qui n'a pas de smartphone et qui voyagera en avion ou en train n'a pas besoin de télécharger l'application PeduLindungi. Assez avec le certificat de vaccination et les résultats de tests PCR et échovionnage d'antigènes, leur présence liée à la propagation de COVID-19 peut encore être identifiée grâce à NIC, ces numéros d'identification des citoyens, lors de l'achat de billets. Le ministère indonésien de la Santé a promis qu'il était prêt à appliquer la réglementation dans les aéroports grâce à l'intégration des données avec les billets d'avion. De même avec la validation des résultats des tests et des certificats de vaccination sur les billets de train. Cet effort doit être apprécié car on sait que de nombreux citoyens se sont plaints de l'utilisation de l'application. Tous les Indonésiens n'ont pas de smartphone intelligent et sophistiqué et ne comprennent pas et ne sont pas capables d'utiliser cette application. De plus, il n'est pas rare que cette application rencontre des problèmes lorsqu'elle est accessible par des milliers, voire des millions de citoyens en même temps. Sur la base des données du ministère de la Santé début juillet 2021, le nombre d'utilisateurs de l'application PeduLindungi était encore inférieur à 1 million de personnes. Maintenant, cette application a été consultée par environ 9 millions de personnes avec 48 millions de téléchargements et environ 55 millions d'utilisateurs mensuels. Le ministère de la Santé rendra également les fonctionnalités de l'application PeduLindungi accessibles sur d'autres applications en se coordonnant avec diverses plateformes numériques. De cette façon, les gens n'ont pas besoin d'utiliser PeduLindungi, mais peuvent profiter des fonctionnalités de PeduLindungi via des applications sur d'autres plateformes numériques. Espérons que l'intégration de l'application PeduLindungi, qui est connectée aux résultats des tests, aux résultats de la recherche des contacts étroits, à l'accès de la télémédecine pour les services de médicaments gratuits, ainsi qu'à son intégration au système de quarantaine, pourra se dérouler sans problème. Bonjour, Jolitar, c'est tout le commentaire d'aujourd'hui.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。 Papua. Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui. On va commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 27 septembre 1940. Le pacte tripartite est signé. Cherchez plus tard, le pacte tripartite était un pacte signé à Berlin le 27 septembre 1940 par Saburo Kurusu du Japon impérial, Adolf Hitler de l'Allemagne nazie et le ministre des Affaires étrangères Galeazzo Ciano d'Italie. En vertu de ce pacte, les trois pays ont formé une alliance militaire et ont formellement formé les puissances de l'Axe lors de la Seconde Guerre mondiale contre les Alliés. Le pacte contenait une reconnaissance mutuelle du leadership des trois pays de chaque région, l'Asie dirigée par le Japon, tandis que l'Europe était dirigée par l'Allemagne nazie et l'Italie. Si l'un des signataires de ces pactes est attaqué par les États-Unis, ils s'entraideront. Dans la pratique, le pacte était une alliance anti-américaine et a aggravé les relations du Japon avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Chers auditeurs, on continue avec l'événement du 27 septembre 1980, Journée mondiale du tourisme. Depuis 1980, l'Organisation mondiale du tourisme célèbre la Journée mondiale du tourisme tous les 27 septembre. La date a été choisie car le 27 septembre 1970, les statuts de l'OMT ont été rédigés. Le tourisme mondial repose également sur un fait unique. Le 27 septembre marque la fin des vacances dans l'hémisphère nord qui se prépare à entrer en hiver. Mais dans l'hémisphère sud, le 27 septembre marque le début de la saison des vacances car il accueille l'été. Toutes les parties du monde sont garanties de vaccins ensemble. Le but de la commémoration de la Journée mondiale du tourisme est de sensibiliser au rôle du tourisme dans la communauté internationale et de démontrer l'impact du tourisme sur les valeurs sociales, culturelles, politiques et économiques du monde. Chers auditeurs, on finit l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 27 septembre 1998. Google a été fondé. Chers auditeurs, Google LLC est une société multinationale américaine spécialisée dans les services et produits Internet. Les produits comprennent la technologie de recherche, l'informatique, web, les logiciels et la publicité en ligne. Depuis sa création, la croissance rapide de l'entreprise s'est traduite par de nombreux produits, acquisitions et collaborations dans le domaine principal de moteurs de recherche de Google. On estime que la société exploite plus d'un million de serveurs dans plusieurs centres de données à travers le monde. Bon, chercheur tard, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Yang kita harapkan, kita inginkan, tak selalu sama. Cerita tentang kita memang pernah ada, kelak masih sama. Ibuku pernah bilang, tak peduli siapa, yang penting bahagia. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Sekarang sendiri, kau duduk di kiri. Dulu teleponmu berdering dariku, sekarang dia yang kau kabari. Dulu berdua di atas motorku, sekarang sendiri, kau duduk di kiri. Dulu teleponmu berdering dariku, sekarang dia yang kau. Berdiri di sana berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Akhirnya kau berdiri di sana berdua dengan dirinya, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Akhirnya kau berdiri di sana berdua dengan, aku tak bergerak. Jangan tanya aku bagaimana, pikirkan saja semua tentang hidup yang berjalan. Kita pernah ada, kita pernah ada, kita pernah ada, kita pernah ada.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est Zerito, bonsoir, voici Mon Indonésie et pour le titre Le gouvernement continue d'accélérer la reprise des PME. Le gouvernement indonésien continue d'accélérer la reprise des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, de l'impact de la pandémie de COVID-19. C'est ce qu'a déclaré le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, Teten Mas Duki, lors d'un webinaire jeudi le 23 septembre. Il a déclaré que la reprise s'était faite grâce à des politiques de financement, au mentorat, au renforcement institutionnel, par le biais de coopératives, à l'accès au marketing et à la technologie de numérisation, ainsi qu'à la coopération multipartite avec diverses institutions. Selon lui, une relance financière était fournie aux MPME, à la fois celles qui ne sont pas encore bancables, ce qui signifie qu'elles ne remplissent pas encore les exigences de la banque pour obtenir des prêts d'affaires ou celles qui sont déjà bancables. Teten a expliqué que le stimulus comprenait l'aide du président de Productive Micros Affaires, des bonifications d'intérêt pour les prêts des affaires du peuple et un financement coopératif par le biais de l'agence de gestion des fonds renouvelables. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises encourage également les MPME à passer au numérique. Selon Teten Mas Duki, la transformation numérique est la clé de la reprise et de l'économie du secteur des MPME pendant la pandémie et la post-pandémie. Il a expliqué que jusqu'à présent, les MPME qui ont intégré l'écosystème numérique ont atteint 15,9 millions, soit une augmentation de 7,9 millions pendant la pandémie. Teten Mas Duki a ajouté que le gouvernement continue également d'encourager les banques à s'impliquer davantage dans les efforts visant à aider le secteur des MPME à continuer de croître et de se développer. Certes, le financement des banques pour le secteur des MPME ne représente que 20% du crédit bancaire total. Ce chiffre est bien inférieur à celui des pays voisins. Le gouvernement cible en 2024 le crédit bancaire au secteur des MPME puisse atteindre 30%. Les banques doivent continuer à encourager la distribution des prêts aux MPME sur les investissements dans le secteur productif, ce qui a le potentiel d'encourager davantage le mouvement économique. Le webinaire a également été suivi par le ministre coordinateur des affaires économiques, Erlangga Hartarto. Il a déclaré que l'aide fiscale qui a été déployée pour le secteur des MPME par le biais du Fonds national de relance économique, PEN, jusqu'au 23 septembre 2021 a été réalisée à 52,9 billions de rupiah. Les fonds ont été utilisés par 27,39 millions de MPME. Les fonds de PEN sont acheminés par le biais de plusieurs programmes tels que les bonifications d'intérêt, le placement des fonds publics auprès des banques et des partenaires pour soutenir le programme de restructuration et augmenter le fonds de roulement des MPME. En outre, il est également déployé sous la forme d'aide productive pour les micro-entreprises, d'aide en espèces et d'incitation fiscale finale. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Berharap temukan cintamu, kamu, kamu, ya kamu.
Semuanya berbeda waktu pertama ku melihatmu, kamu, kamu, ya kamu. Aku tiba-tiba sayang, aku tiba-tiba cinta waktu pertama melihat, melihat senyum manismu.
Menggoda hati yang kaku, akan kehadiran cinta. Ini kan namanya cinta pada pandangan pertamaku. Oh, hey, hey, yeah.
tepat di hadapanmu. Kamu, kamu, ya kamu. Ku tak ragu, ku tak bimbang.
C'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la grotte Batu Cermin. Cerita, la grotte Batu Cermin est située dans le village de Waisambi, à l'ouest de Manggarai, à l'est de Nusa Tenggara, et à seulement 4 km de Labuan Bajo, la capitale de l'ouest de Manggarai. Le découvreur de cette grotte était Theodor Verhoeven, un prêtre néerlandais qui était également archéologue en 1951. Selon Theodor Verhoeven, cette grotte était sous la mer qui, après des millions d'années, a été soulevé à la surface de la terre. Parce que la grotte Batu Cermin est un endroit qui était autrefois sous la mer, sur les murs, vous pouvez voir des fossiles de coraux et de tortues. Cette attraction touristique de 19 hectares avec une hauteur de grotte d'environ 75 mètres est généralement bondée pendant la journée. Lorsque vous entrez dans la grotte, vous sentirez que votre corps est flanqué d'imposantes falaises. Plus vous entrez profondément dans la grotte, plus vous vous sentirez frais et moins vous obtiendrez de lumière. Avant d'entrer dans la grotte, un guide vous fournira généralement une lampe de poche. C'est parce que la grotte de Batu Cermin est très sombre et étroite à l'intérieur. Pour pouvoir voir les fossiles des tortues sur les parois de cette grotte, il faut marcher environ 20 mètres et parce qu'elle est étroite et que l'air est limité, le nombre de touristes qui entrent dans la grotte est également limité. Seulement 10 personnes peuvent entrer une fois pendant 30 minutes seulement. Cette grotte s'appelle Gua Batu Cermin car à l'intérieur de la grotte, il y a entre au sommet, de sorte que pendant la journée, la lumière du soleil peut entrer dans la grotte par l'étroite fissure. Lorsqu'il pleut, l'eau de pluie pénètre dans la grotte et provoque des flaques d'eau. L'eau de la flaque d'eau qui s'expose au soleil vous permettra de voir votre propre visage dans les flaques d'eau qui inondent la grotte. C'est pourquoi cette grotte s'appelle la grotte Batu Cermin. Se rendre à la grotte de Batu Cermin n'est pas difficile et cela ne prend que 30 minutes environ du port de Labuan Bajo en transport en commun ou en moto. Ce transport ne peut vous emmener qu'à l'entrée principale de cette zone. Ensuite, vous devez marcher environ 10 à 15 minutes jusqu'au poste d'information de Batu Cermin. Pour entrer dans cette grotte, vous devez payer un billet d'une valeur de 10 000 rupiah plus les frais d'une guide. Je veux dire, plus les frais d'un guide dans la grotte d'environ 20 000 rupiah. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture Rapport ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain! Thank you.
plus tard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien. Bonne écoute.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une collaboration entre Voice of Indonesia, station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Layanan Pesan Antar. Layanan Pesan Antar. En français, service de livraison. Je vais vous donner une conversation dont le titre est Apakah bisa bayar di tempat? Je répète, Apakah bisa bayar di tempat signifie est-il possible de payer sur place? Bonne écoute. C'est une conversation entre Kevin et le réceptionniste du restaurant par le téléphone. Il a commandé du poulet frit pour la livraison. Il a posé des questions sur le mode de paiement.
Apakah bisa bayar di tempat?
Bisa, Pak. Mohon siapkan uang pas.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Apakah bisa bayar di tempat? Apakah bisa bayar di tempat signifie est-il possible de payer sur place? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Apakah? Apakah signifie est-ce que? Bisa. Bisa signifie peut ou possible. Bayar. Bayar signifie payer. Di tempat. Di tempat signifie sur place. Mohon. Mohon signifie veuillez. Siapkan. Siapkan signifie préparer. Uang pas. Uang pas signifie le montant exact. Apakah bisa bayar di tempat? Apakah bisa bayar di tempat signifie est-il possible de payer sur place? Bisa pak. Bisa, Pak, signifie oui, monsieur. Mohon siapkan uang pas. Mohon siapkan uang pas. Signifie veuillez préparer le montant exact. Dans la conversation, vous écoutez l'expression Apakah bisa bayar di tempat? Je répète, apakah bisa bayar di tempat? En français, est-il possible de payer sur place? Dans cette phrase, on a dit bayar di tempat. Bayar di tempat signifie payer sur place. Vous pouvez écouter l'utilisation de l'expression bayar di tempat signifie payer sur place lors de l'achat et de la vente de marchandises livrées au client. L'expression bayar di tempat, bayar di tempat signifie payer sur place. Cela signifie que vous réglerez votre commande en espèces lorsque vos marchandises seront réceptionnées à destination. Donc, si vous voulez savoir si le paiement peut être effectué en espèces lorsque la commande arrive à destination, vous pouvez demander Apakah bisa bayar di tempat? apakah bisa bayar di tempat? Signifie est-il possible de payer sur place? Un autre exemple. Écoutons un autre exemple d'expression pour demander le mode de paiement d'une commande. Apakah bisa bayar di tempat? Apakah bisa bayar di tempat? Signifie est-il possible de payer sur place? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, Pak. Signifie non, monsieur. Boleh bayar di tempat? Boleh bayar di tempat? Signifie puis-je payer sur place? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Signifie oui, bien sûr. Dans la conversation, vous écoutez la phrase Mohon siapkan uang pas. Mohon siapkan uang pas signifie veuillez préparer le montant exact. La phrase signifie que Kevin doit préparer le montant exact selon le montant de l'achat, ni plus ni moins. Ainsi, l'expression uang pas signifie le montant exact est utilisé pour désigner le montant nominal selon l'argent nécessaire. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour mieux comprendre, écoutons encore une fois la conversation.
Apakah bisa bayar di tempat?
Bisa, Pak. Mohon siapkan uang pas.
Chers amis, voilà la mission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention. Au revoir.
Amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical et je vais vous présenter une chanson croncho intitulée Telaga Sarangan, chantée par Sri Widadi.
Chers amis, cette chanson écrite par Ismanto raconte la beauté d'un lac situé autour du mont Laou, à l'est de Java. Les paroles de cette chanson décrivent également l'eau claire du lac entouré de collines et magnifique. Les gens venaient au bord du lac pour réconforter un cœur triste. Bon, cher Jolitar, voici Sri Udadi va chanter une chanson croncho intitulée Telaga Sarangan. Bonne écoute.
Marga satwa mandi berkecimpungnya bebas menghias diri berkicamuran di tepian. Kolam air ciptaan Tuhan berpagar bukit-bukit indah tempat insan datang untuk kakinya gunung Lawu di situ letaknya kagum aku.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.